VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La justice zambienne a refusé aujourd'hui d'abandonner les poursuites pour trahison contre Hakainde Hichilema, le leader de l'opposition, emprisonné depuis plus de 2 semaines après avoir tenté de perturber le passage du convoi présidentiel. Hakainde Hichilema est accusé d'avoir entrepris de renverser par des moyens illégaux le gouvernement du président Lungu à des dates inconnues entre le 10 octobre 2016 et le 8 avril 2017. Celui que l'on surnomme Hichilema en Zambie refuse d'admettre sa défaite et conteste toujours les résultats arguant de fraude, même si la Cour constitutionnelle a validé la réélection de son rival. Et à côté, la justice sud-africaine a déclaré ce mercredi inconstitutionnel et illégaux des accords de coopération signés avec la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud en vue de la relance du programme nucléaire civil, la cible de nombreuses critiques dans le pays. En suspendant ces accords, le tribunal de la ville du Cap a donné raison à plusieurs ONG qui dénonçaient l'opacité du processus. L'incertitude autour du financement de ce programme nucléaire est d'ailleurs l'une des raisons avancées par les agences de notation qui ont dégradé début avril la note de l'Afrique du Sud en catégorie spéculative. L'aide alimentaire du programme alimentaire mondial refoulée au Burundi, sur ordre du gouvernement burundais, un convoi de 10 camions en provenance de Kigali au Rwanda a dû faire demi-tour. Bujumbura invoque des raisons sécuritaires. Pierre Nkurkuye est le porte-parole de la police à Bujumbura.
Vous savez que depuis 2015, il y a une insécurité qui a été perpétrée dans notre pays en provenance d'origine rwandaise pour tuer les leaders ici ou alors commettre des crimes. Maintenant, tout le monde sait que le mal sécuritaire vient de là-bas. Et donc, si aujourd'hui il y a des objets ou des personnes qui proviennent de cet endroit-là, eh bien, on doit prendre toutes les mesures et tous les pays ont le droit de protéger leur territoire contre toutes sources de criminalité extérieure.
Le porte-parole de la police burundaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Washington, 7h02, ici aux États-Unis, le militant anti-esclavagiste mauritanien Biramda Abed a reçu à New York le prix du magazine américain Time, qu'il a sélectionné parmi les personnalités les plus influentes du monde pour l'année 2017. Le leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, Ira Mauritani, pense que cette distinction donnera une plus grande visibilité à la lutte acharnée qu'il mène pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie.
Les autorités mauritaniennes ont pris des mesures pour maintenir l'esclavage. Quelles sont ces mesures? C'est l'interdiction du mouvement anti-esclavagiste, c'est les procès intentés par les autorités mauritaniennes plusieurs fois par année depuis une dizaine d'années contre les militants anti-esclavagistes qui sont condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison et qui sont torturés, qui sont pourchassés, qui sont poursuivis même dans leur possibilité de vivre en paix, dans leur possibilité de travailler, de gagner leur vie. Et je pense que avec les campagnes de diabolisation des militants anti-esclavagistes, des organisations anti-esclavagistes que le gouvernement a toujours mené, les excommunications religieuses, tout cela conjugué à la soustraction automatique à la loi anti-esclavagiste de tous les contrevenants à cette loi et leur protection, je pense que tout ça, ce sont des mesures qui visent à maintenir l'esclavage. Les lois qui sont édictées ou les conventions qui sont ratifiées ne sont pas destinées à l'application, ce ne sont pas des mesures visant à éradiquer l'esclavage, c'est des mesures visant à soigner l'image du gouvernement mauritanien face à la communauté internationale, face aux bailleurs de fonds internationaux, pas plus.
Biramda Abed, leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. 3 kamikazes se sont fait exploser tôt ce mercredi à la périphérie de Maïdougouri, la grande ville du nord-est du Nigeria, tuant un membre d'une milice d'autodéfense et blessant au moins une dizaine d'autres personnes, ont annoncé un militaire et les services de secours. Ces attaques surviennent seulement 2 jours après une série d'attentats à la bombe autour de cette capitale de l'État du Borno, qui avait fait 4 morts parmi les miliciens d'autodéfense engagés dans la lutte contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Au Niger, la région de Difa préoccupe toujours les humanitaires avec de nombreux défis à relever suite à l'insurrection de Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années des deux côtés de la frontière avec le Nigeria. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino, a tendu son micro à ceux qui vivent dans les camps de Difa. Reportage.
À quelques kilomètres de Difa, le long de la route nationale 1, se dressent les camps d'Assaga. À droite, les déplacés nigériens. À gauche, les réfugiés nigérians. Assaga, ce sont deux villages qui portent le même nom dans chaque pays de part et d'autre de la Komadougou Yobe. Cela fait plus de deux ans que Mme Boukar a fui le Nigeria, un soir après une attaque de Boko Haram qui a coûté la vie à 12 personnes dans son village.
On manque de nourriture. On n'a reçu aucune distribution depuis 4 mois. On a faim. On doit se débrouiller. Il y a aussi les tentes qui sont vieillissantes. On a demandé de nouvelles tentes, mais un tiers seulement en a reçu.
Les adultes et les enfants ont faim dans Assaga. Les cas de malnutrition existent, comme l'explique cette mère de famille. Ajiakaka Haruna a 40 ans. Elle s'inquiète pour son fils.
Si mon fils était rassasié, il irait jouer avec les autres enfants du village. Mais là, il est très fatigué. Au centre de santé, on ne m'a rien donné. Sinon, j'aurais pu préparer de la bouillie.
En traversant le goudron brûlant de la route nationale 1 à Assaga, Niger, site de déplacés, les complaintes sont les mêmes. Les habitants du camp se plaignent aussi de ne pouvoir exercer des activités.
Écoutons Oumara Gobo, il est le chef du camp d'Assaga, Niger.
Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de problème. Je ne sais. Là où le problème, ça existe encore, c'est au niveau de la vie de la communauté dans le cas. C'est pas la vie. Ici, la communauté, ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas de quoi à faire. Ils s'adressent à l'État et les bailleurs de fonds.
Du côté des autorités nigériennes, on appelle les donateurs à respecter les engagements pris lors de la conférence d'Oslo. 14 pays avaient alors promis de verser 672 millions de dollars pour soutenir les pays du lac Tchad face aux conséquences humanitaires de Boko Haram.
Dandano Mahamadou Laouli est le gouverneur de la région de Difa.
Nous étions à la conférence humanitaire d'Oslo. Nous avons fait un appel pour la région de Difa. Et cet appel a été entendu. Et nous pensons que pour l'année 2017, si vraiment les gens respectent les engagements, nous n'aurons pas de problème.
Les agences humanitaires estiment que 300 000 personnes ont besoin d'assistance dans la région de Difa, dont 100 000 réfugiés nigériens. Nicolas Pino, Difa, VOA Afrique.
Nous retrouverons Nicolas Pino dans nos éditions de demain, pour cette série de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. Salam, Reporters sans frontières, RSF, dans son rapport 2017, publié aujourd'hui même, en évoquant, je cite, les attaques anti-médias, les fausses informations, la répression et le triomphe d'hommes forts comme Trump ou Erdogan. Fin des citations. La liberté de la presse connaît une situation difficile ou très grave dans 72 pays sur 180 recensés, dont la Chine, la Russie, l'Inde, presque tous les pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Amérique centrale, ainsi que les deux tiers des pays d'Afrique selon ce rapport. Le président américain Donald Trump entend fortement réduire le taux d'imposition des entreprises et proposer un important rabais fiscal aux multinationales qui rapatrient aux États-Unis des bénéfices réalisés à l'étranger. Après avoir échoué à ce stade à abroger l'Obamacare, le vainqueur de l'élection présidentielle du 8 novembre s'attaque ainsi à un autre engagement phare de sa campagne, la réforme des impôts. Parmi les mesures retenues figure celle de faire passer de 39,6% à 15% le taux maximal d'imposition des petites et moyennes entreprises ainsi que des sociétés individuelles. Les forces américaines ont livré aujourd'hui les premiers éléments du bouclier antimissile THAAD sur le site où il sera installé en Corée du Sud, un projet destiné à contrer la menace nord-coréenne, mais qui suscite la colère de Pékin à l'inflexibilité du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, visiblement déterminé à doter son pays de missiles intercontinentaux. Les États-Unis opposent désormais la politique imprévisible du président Donald Trump qui s'est dit à régler, seul si nécessaire, le problème au moment où cingle vers la péninsule le porte-avions américain Carl Vinson et son escorte qui devrait atteindre la Corée d'ici la fin de la semaine. Pyongyang a annoncé mercredi la réussite des plus importants exercices d'artillerie jamais conduits au nord. Jean-Roger Billon, ce sera tout. Le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.